Vous écoutez Kinescopie.
Kinescopie, c'est l'émission qui tend son micro à ceux derrière les jeux vidéo. Kinescopie, cinquième portrait, tourné juste avant le confinement, une odeur de dernier cours avant la fin du monde pour Sébastien Janvaux. Il est spécialiste des jeux vidéo expressifs et transforme sa vie en expérience ludique.
Mais on va voir que c'est assez complexe, ce qui régit les logiques du jeu indépendant. Le jeu indépendant offre, de façon contemporaine, à partir de la fin des années 90, ce contexte alternatif de développement au modèle dominant, et va permettre l'émergence de formes différentes, plus expérimentales, de logiques de production, de distribution, de conception alternative au modèle dominant.
Donc, bonjour, je suis Sébastien Janvaux, je suis professeur à l'Université de Lorraine et chercheur spécialiste sur les jeux vidéo. Par ailleurs, je suis aussi responsable d'une formation qui s'appelle Conception de dispositifs ludiques et je suis également game designer. Donc, j'étais game designer chez Ubisoft au début des années 2000 et dans le cadre de ma carrière universitaire, je continue à faire du game design de façon indépendante.
Et alors, qu'est-ce qui t'a conduit à faire du jeu vidéo ?
Disons que le jeu vidéo, à la base, oui, c'est une passion. Et j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait des études de cinéma parce que j'étais aussi passionné de cinéma. Et dans le cadre de ces études, ça m'a amené à réfléchir de ce qui faisait, une forme d'expression, une forme d'art également. J'ai fait des parallèles avec une de mes passions, donc le jeu vidéo, en me disant le cinéma, à ses débuts, avait été assez mal reçu par les institutions, par la critique. Mais peu à peu, il a été anobli. Et ça m'a poussé à faire des parallèles avec le jeu vidéo, dont je trouvais qu'il avait quand même un parcours assez similaire et des rapprochements étaient à faire. Et c'est ce qui m'a amené peu à peu, alors à la fois à m'intéresser à la création de jeux vidéo, mais aussi à la réflexion, à la recherche, à l'étude sur le jeu vidéo, un peu comme on étudie le cinéma, l'architecture, la littérature, etc.
Alors, on ne va pas revenir sur ta carrière chez Ubisoft. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Lie in My Heart.
Oui.
Donc, le jeu vidéo que tu as sorti en octobre dernier, 2019.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux raconter la genèse de ce jeu-là ?
Alors, tout d'abord, je pense que c'est lié justement à mon cadre de recherche. C'est-à-dire, moi, je m'intéresse dans mes recherches à la façon dont un jeu peut être considéré comme une forme d'expression. Comment on raconte une histoire dans un jeu ? Comment on transmet des émotions dans un jeu ? Comment on fait passer un message, voire une idéologie, une représentation du monde ? Et dans ce cadre-là, il y a une donnée qui m'a interpellé quand on fait un peu l'histoire des jeux vidéo, et c'est généralement les cours que je donne, mais je ne suis pas le seul à faire ce constat, c'est que dans l'histoire des jeux vidéo, il y a quand même eu des thématiques qui ont été dominantes, surreprésentées, qui ont notamment trait à l'imaginaire, à la science-fiction, à l'heroic fantasy, voire à la masculinité, pour plein de raisons, notamment des cadres socio-économiques particuliers. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais est-ce qu'on peut parler de thématiques liées à la vie courante, liées à des problèmes du quotidien, à des problèmes individuels, socio-psychologiques, par le jeu vidéo ? Et comment on pourrait s'y prendre ? Parce qu'après tout, je faisais le parallèle avec d'autres formes d'art, dans la bande dessinée, on se rend compte que, comme les jeux vidéo, c'était un média qui était perçu comme étant pour les adolescents, pour les enfants, déconsidéré. Et dans les années 70 et 80, on a eu des auteurs qui ont commencé à parler de sujets graves, de sujets sensibles par la bande dessinée et qui se sont posés la question de comment je peux aborder ces sujets-là par la bande dessinée. Un cas que je prends très souvent, c'est Maus de Spiegelman qui va de façon autobiographique parler de son rapport avec son père qui est un survivant de la Shoah. Donc, sujet très délicat qu'on n'attendait peut-être pas forcément en bande dessinée, mais qui a ouvert tout un pan expressif et thématique à la bande dessinée. D'ailleurs, il a gagné le prix Pulitzer pour ça. Et donc, moi, c'est un peu dans le même cadre de réflexion que j'essaye de développer des jeux qui vont parler du quotidien, parler de sujets sensibles, en ayant en plus une particularité, c'est que mes jeux sont autobiographiques. C'est-à-dire, de la même façon que dans la bande dessinée, on a eu énormément d'autobiographies qui ont participé à faire reconnaître la bande dessinée comme une forme d'art, je me demande, mais pourquoi dans les jeux vidéo, on a aussi peu d'autobiographies ? En fait, c'est un genre qui est quasiment inexistant dans les jeux vidéo, alors que dans tous les autres médias, c'est un genre qui est très bien représenté et qui participe aussi à la légitimation des médias de façon artistique, culturelle, etc. Et à l'exploration de leur expressivité. Donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai fait la In My Heart, en me posant à la fois la question de comment, malgré le fait que ce soit perçu comme un jeu, je dis malgré parce que le fait que ce soit un jeu, de nombreuses personnes vont tout de suite avoir plein de connotations. Et c'est ça qui est difficile dans le cadre du jeu.
La fameuse dictature du fun.
Voilà, on va parler de jeu, on va se dire, soit c'est du jeu vidéo, donc ça doit être fun, soit c'est aussi du jeu. Et le jeu, dans nos sociétés occidentales, c'est très connoté. Domaine de l'enfance, domaine des loisirs, domaine du futile.
C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux, etc. Et donc je me dis, mais comment on parle de sujets sensibles, matures, tout en disant, ceci est un jeu. Et comment j'en parle en plus de façon spécifiquement ludique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi et comment parler de sujets sensibles d'une façon qui serait particulière par le jeu et qui ne serait pas forcément identique à la façon dont je pourrais en parler au cinéma, en littérature, etc. Donc c'est toutes ces réflexions-là qui entourent la création de Lie in My Heart.
Justement, Lie in My Heart, c'est... Alors moi, j'y ai joué. C'est excessivement perturbant parce que justement, on ressent des émotions qu'on n'a pas du tout l'habitude de ressentir devant des jeux vidéo. Moi, j'ai senti de la douleur physique.
Alors, faut peut-être que je revienne un peu sur le cadre de ce qu'est Lie in My Heart. Donc, c'est un jeu qui revient sur un drame que j'ai vécu personnellement il y a 2 ans de ça. La mère de mon fils a choisi de mettre fin à ses jours. Bon, elle souffrait notamment de troubles bipolaires, mais ce n'est pas le seul facteur qui explique son acte. Et justement, quand on est face à ce genre de drame, on est souvent confronté à cette question pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé ? Quels sont les facteurs ? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? Voilà. Et donc, moi, je pensais que le jeu, c'était un médium parfait pour aborder ce genre de questionnement. C'est-à-dire, quand on joue, on se pose des questions. On se demande, et si j'avais fait autre chose, qu'est-ce que je peux faire là ? Qu'est-ce que je devrais faire à ce moment-là ? Et donc, moi, je développe un genre de jeu que j'appelle des jeux expressifs, qui est un concept sur lequel je travaille, qui m'est propre, et qui est justement l'idée de mettre quelqu'un, de mettre le joueur à la place de quelqu'un pour expérimenter ses dilemmes, expérimenter ses choix moraux, ses choix éthiques. Et bien sûr, le gros problème avec ça, dans le cadre de Lie in My Heart, c'est que je cherchais à faire aussi une biographie, une autobiographie. Donc quand on parle d'autobiographie, on essaye de transmettre des événements préétablis au joueur. Mais en même temps, comment lui laisser la possibilité de faire des choix ?
La marge de manœuvre.
Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de résoudre avec Lie in My Heart, avec un mécanisme un peu particulier, en m'inspirant en fait de mes recherches et d'un pan de recherche aussi qui s'appelle l'histoire contrefactuelle, qui permet d'aborder l'histoire, mais en imaginant des possibles alternatifs. Et ce qui fonde la scientificité de l'histoire contrefactuelle, c'est qu'on va comparer les possibles alternatifs à ce qui s'est passé pour de vrai. Et le fait de faire cette démarche un peu méthodologique de comparaison, ça permet d'éclairer des phénomènes de causalité ou de réfléchir en tout cas à des phénomènes de causalité et de déterminisme ou de possibilisme, enfin des aspects assez philosophiques peut-être même de l'histoire, mais en tout cas que les jeux, à mon avis, permettent vraiment d'explorer. Et justement, par rapport à ce type de drame, on peut se dire, je vais explorer des possibles et je vais amener le joueur à réfléchir justement à la fin de chaque séquence de mon jeu. Je lui dis, sur les 12 choix, par exemple, que tu as eu à faire dans cette séquence, 6 correspondent à ceux que j'ai faits. Alors, je ne lui dis pas exactement lesquels, mais justement, à la fois, à mon avis, et c'est pour répondre à ta question, ça lui permet de se mettre à la place, c'est-à-dire d'avoir une forme d'empathie. Et c'était tout l'enjeu, toute la difficulté du développement de ce jeu. C'est, je me mets à la place de quelqu'un. Donc, quelque part, j'essaie de lui faire ressentir certaines émotions. Mais je ne voulais pas non plus tomber uniquement dans le pathos. Parce que mon but, ce n'était pas de faire du mélodrame avec ce genre de drame, justement. Mais c'était aussi de l'amener à avoir une réflexion sur la part de responsabilité à la fois individuelle, mais pas uniquement, justement, même sociétale. C'est-à-dire que dans les cas de suicide, pour moi, le suicide, et c'est le fondement de la sociologie même, le suicide, c'est un fait social.
Durkheim,
c'est un fait sociologique.
Quoi.
Voilà, Durkheim, exactement. Un des pères fondateurs de la sociologie a fondé la sociologie sur sa réflexion autour du suicide. Et donc, Lie in My Heart, c'est autant un jeu qui vous met à la place de quelqu'un qu'un jeu qui va essayer de vous faire réfléchir à des thématiques qui sont en fait des thématiques universelles et transversales. Et c'était une des interrogations que j'avais. C'était, est-ce que le joueur va vraiment ressentir ce que j'ai ressenti ? Est-ce qu'il va réussir à se mettre à ma place ? Et d'après les retours que j'ai, je me dis quand même, oui, mais malgré l'histoire très singulière que je propose de vivre, il y a des thématiques universelles. le rapport à la perte d'un proche, le rapport à la maladie mentale, le rapport de l'enfance au décès, parce que forcément dans le jeu, on s'adresse à l'enfant pour lui expliquer le décès. Donc des sujets très sensibles, très difficiles, qui sont quasiment tabous d'ailleurs dans nos sociétés, mais qu'à mon avis, abordés par le cadre du jeu et par ce cadre justement d'expérience des possibles, on va trouver un terrain d'expérimentation qui à la fois permet de se projeter émotionnellement, mais qui va aussi permettre d'avoir une posture de réflexion sur tous ces enjeux.
Dans ton cours, tu parles de rhétorique procédurale, le fait de faire passer des messages par le jeu, enfin les mécaniques de jeu. Justement, dans la In My Heart, on a souvent des choix à faire très rapidement.
Oui, alors justement, dans la notion de rhétorique procédurale que j'aborde dans le cadre de mes cours, c'est une notion qui n'est pas la mienne, qui est d'un chercheur qui s'appelle Jan Bogost, qui a réfléchi sur la façon dont les jeux vidéo pouvaient persuader quelqu'un d'un message préétabli. Et donc ça, c'est une notion que j'ai beaucoup explorée dans le cadre de mes travaux et qui m'a intéressé dans le sens où moi, je me dis, ce que je voulais faire, justement, ce n'était pas forcément un jeu qui allait essayer de persuader le joueur d'une solution préétablie, d'un message préétabli, mais à l'inverse, un jeu qui allait l'amener qui allait amener le joueur à exprimer sa propre solution en lui présentant un problème. D'ailleurs, moi, je n'essaye pas de persuader le joueur. J'essaye plutôt de lui présenter différents choix, même des choix moraux, pour lui permettre aussi de s'y retrouver. Parce que c'était ça toute la difficulté. Comment je vais permettre... Parce que je me sentais mal, en fait, d'imposer au joueur certaines visions que j'avais ou certains de mes choix en me disant de toute façon, ça va le sortir du jeu ou il ne va pas s'y retrouver. Moi, je voulais qu'il s'y retrouve quand même parce que ça allait lui permettre à la fois de s'identifier mais aussi lui permettre de réfléchir à tout ça. Et donc, mon jeu, à l'inverse d'autres jeux autobiographiques, en fait, la plupart des jeux autobiographiques que je connais, et je pense que j'ai quand même bien fait le tour de la question, c'est des jeux qui sont soit métaphoriques. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle The Dragon Cancer, qui est un jeu qui vous met à la place le concepteur a perdu un enfant du cancer, un nouveau-né. Et ce jeu est très, très métaphorique. Et même, il impose une vision, et c'est en ça qu'il a une rhétorique procédurale très forte, il impose une vision très christique de ce qu'il a vécu. On a des références à Jésus, à Dieu, tout le temps. Bon, ça peut être un principe de se mettre à la place de quelqu'un qui est très croyant, très chrétien, etc. Mais moi, dans mon cadre, dans le jeu, je voulais expérimenter quelque chose d'un peu différent. À la fois, je ne me sentais pas d'imposer ma vision du monde au joueur. Je voulais un peu lui laisser le choix. Et bon, on ne peut pas laisser tous les choix possibles. Et c'est ça aussi la difficulté de l'acte de création dans ce cas-là.
Et c'est, du côté autobiographique aussi.
Oui, c'est quels sont les choix que je vais lui laisser et comment je pense ces choix. Quels sont les choix, justement, que je vais créer pour le joueur. Je voulais pas lui imposer une vision préalable et surtout, je voulais me passer de l'aspect métaphorique. Je voulais faire un jeu qui crée une sorte d'effet de réel. Et ça répond aussi un peu à ta question sur le fait qu'on ressente parfois même de la douleur morale ou physiquement. C'est qu'il y a un effet de réel derrière ce jeu qui tranche énormément avec la plupart des jeux autobiographiques qui essayent quand même majoritairement de passer par la métaphore. Ce que j'ai fait aussi dans mon premier jeu en 2011, qui parlait encore d'une autre thématique, de l'atteinte à l'enfance en fait, j'avais fait un jeu très métaphorique. Mais là, je me suis dit, étant donné toute l'évolution de la scène du jeu vidéo récemment, du jeu indé, peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut proposer autre chose et essayer d'aller vers un effet de réel un peu plus accentué pour vivre ce genre de thématique. Mais en même temps, j'ai bien conscience que le problème, c'est qu'on va me dire, et on me l'a dit, mais ça, c'est pas un jeu. Et ce qui m'intéresse aussi dans mes travaux de recherche, c'est d'interroger cette frontière du jeu et du non-jeu. Et à partir de quel moment on fait évoluer les attentes de ce qu'est du jeu pour y faire entrer de nouvelles connotations, de nouvelles représentations possibles. Et comment sortir finalement de ce fait de ne voir le jeu que sous le regard du fun. Et après tout, moi, quand je vais au cinéma, je ne vais pas forcément aller voir que des films qui vont me faire penser du fun, mais je veux peut-être quand même ressentir des émotions, tout en réfléchissant peut-être sur moi-même ou sur mon monde, et c'est ce que j'estime moi être l'art. Et après tout, pourquoi on ne pourrait pas faire ça par les jeux vidéo?
Et puis c'est aussi ne pas prendre son public pour un enfant. Enfin...
Bah oui. Alors après, moi, je n'ai pas forcément de jugement de valeur vis-à-vis du fait de vouloir faire des jeux qui soient fun ou des jeux qui soient divertissants. Mais on peut aussi très bien faire des jeux qui soient divertissants, puis qui en même temps amènent à réfléchir ou à aborder des sujets profonds. Il y en a. Mais en même temps, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était aussi essayer d'expérimenter d'autres horizons. Hein, qui sortent de cette optique de divertissement pour aborder peut-être un jeu qui vous amène à avoir des questions plus métaphysiques, tout en ressentant des émotions qui vont vous amener vers d'autres terrains par rapport à la thématique justement que j'aborde.
Et donc, ce jeu, tu en parles à tes élèves. C'est pas un peu compliqué de... Tu te mets à nu, finalement, dans ce jeu aussi. Vis-à-vis de tes élèves, c'est pas un peu complexe ?
Alors, si j'ai fait ce jeu-là, c'est aussi dans une optique de recherche. C'est-à-dire que finalement, moi, je suis dans une optique qu'on appelle de la recherche-création. C'est-à-dire que j'ai une problématique de recherche que je nourris de façon théorique, le concept de jeu expressif, par exemple. Et je vais faire des créations qui vont permettre de tester ce concept, voire de lui ouvrir de nouveaux horizons. Et après, je fais un retour sur la création, sur sa réception, pour alimenter le concept et ainsi de suite. Donc forcément, dans ce cadre-là, je pense qu'il y a des apports qui peuvent être très intéressants pour les étudiants, ou pas que, hein, même pour les professionnels, etc., pour avoir des retours d'expérience par rapport à ce type d'expérimentation. Donc moi, de toute façon, dans le cadre de mon travail, comme je suis chercheur, j'ai appris aussi à avoir ce qu'on appelle une forme de distanciation, parce que quand on est scientifique, c'est un des réflexes qu'on apprend, en tout cas, à avoir la distanciation. Donc je crois que ça me permet aussi de me protéger un peu par rapport à ça, et de prendre du recul vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de ma création. Et ensuite, je ne fais pas forcément la promotion du jeu auprès de mes étudiants, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui naturellement cherche à essayer le jeu, pas tant par curiosité, mais peut-être aussi par envie de s'ouvrir aussi à d'autres formes de création dans les jeux vidéo. Et beaucoup me témoignent parfois, ou même de façon très spontanée, des joueurs m'ont contacté en me disant je me suis complètement retrouvé dans votre jeu, ça me touche énormément parce que voilà, j'ai ma mère qui est suicidaire, parce que je suis moi-même bipolaire, parce que ci, parce que ça. Et moi, ça me touche beaucoup parce que ça montre que ce que j'ai fait, ça a aussi un apport qui va au-delà du simple acte de créer quelque chose ou de la recherche scientifique qui serait dans sa tour d'ivoire. Voilà. Là, moi, j'ai vraiment envie de faire des choses qui soient en prise avec des enjeux sociétaux, avec les publics et qui peuvent aussi apporter aux individus.
Avec le réel, est-ce qu'on peut parler de jeux vidéo social ?
Je dirais pas social dans le sens où moi, je me méfie quand même de cette perspective qui serait de dire je vais faire un jeu ou une création qui va chercher à avoir un impact et qui va essayer de changer les choses. Moi, je crois qu'il faut se prémunir un peu de ces discours parce qu'ils peuvent être pris dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, dans ce cas, si tu acceptes ça, tu acceptes que les jeux vidéo peuvent inciter
à avoir des idéologies
comportements
étranges,
violents, etc., fascistes. Bon, ce qu'il ne faut pas s'interdire de penser non plus. Parce que je crois vraiment qu'aussi que les jeux vidéo ont leur part de responsabilité, comme tout objet de création et comme objet culturel, dans la façon dont ils font évoluer les mentalités, les représentations, et dont ils orientent les points de vue. Je veux dire, la représentation, par exemple, de la femme dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, et qui, lorsqu'on est adolescent, masculin, voilà, où on cherche ses repères, et forcément, les jeux vidéo, ça vous change. Moi, je suis le premier à dire que j'ai été profondément changé par certains films que j'ai vus, et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis un grand fan de Kubrick, je sais que si j'avais pas vu des films de Kubrick, aujourd'hui je ne serais pas le même. Donc je ne peux pas porter ce discours-là tout en disant « mais non, mais les jeux vidéo, on s'en fout, c'est que du jeu ». Non, ça change aussi les individus, et heureusement, quelque part aussi, parce que ça montre que ça peut avoir une importance. Mais en même temps, je me prémunis aussi des discours qui sont trop déterministes, qui diraient « mais parce que j'ai joué à ce jeu vidéo-là, ça m'a amené à faire ça ». Il faut aussi regarder le contexte individuel de la personne, son parcours biographique, son cadre culturel, le cadre dans lequel il joue à un jeu.
Il ne faut pas oublier la complexité du monde. Tout
c'est
simplement.
Ça, exactement. Donc, je crois qu'il faut à chaque fois avoir des discours nuancés entre comment je pense les usages, comment je pense la réception, comment je pense la part de l'œuvre, et aussi comment je pense les contenus. Et après tout, on ne peut pas s'interdire de dire qu'effectivement, dans les jeux vidéo, il y a des contenus qui sont des représentations dominantes du monde, qui posent question, vraiment, quand en termes de diversité, etc. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'essayer de penser d'autres formes.
Tu as eu combien de téléchargements ? Tu sais combien de personnes
Un jeu comme ça, ça se vend à peu près à 500 exemplaires. Quoi. Là, pour l'instant, j'en suis à peu près à ça. Ce qui n'est pas beaucoup, en fait, mais ce qui est quand même intéressant, parce que moi, mon objectif, c'était de trouver un public. Et disons que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il a eu une très bonne réception critique, en fait, pour les rares instances qui l'ont critiqué. Mais tout de même, j'ai réussi à toucher, les plus gros quotidiens nationaux, grand public, on va dire, pas les quotidiens spécialisés, qui n'en ont quasiment pas parlé. Je pense savoir comprendre pourquoi, hein, parce que c'est un jeu qui, de toute façon, sort énormément des standards.
Ce serait trop touchy, comme on dit trop...
Je pense que ça ne correspond pas vraiment au type de jeu que les magazines spécialisés de jeux vidéo souhaitent traiter, ne serait-ce que par leur modèle économique. économiques qui essayent, bah voilà, qui fonctionnent sur un mode publicitaire essentiellement, à part quelques-uns, donc qui essayent d'attirer des joueurs avec des jeux dont on souhaite entendre parler. Donc c'est plus difficile de faire parler de soi quand on a un petit jeu expérimental. Mais en même temps, des organes de presse comme Le Monde ont joué le jeu, en ont parlé avec un très bel article. Les Inrock ont consacré le jeu comme étant un des 10 meilleurs jeux de 2019. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même un écho. Libé, par exemple, par l'intermédiaire de... a fait une pleine page sur le jeu et l'émission Silence on joue, qui est le podcast jeux vidéo de Libé, a consacré toute une émission. J'étais très content de pouvoir parler un peu de ce sujet-là pendant quasiment une heure avec Erwan Cario. Voilà, ça montre aussi quelque part que... essaye de mettre en valeur des jeux un peu différents, mais auprès du grand public, il peut y avoir aujourd'hui un écho qui montre aussi qu'on change de rapport, de vision.
On change de registre un petit peu.
De registre sur ce que peut être le jeu vidéo. Et quelque part, pour moi, c'est l'essentiel, quoi. C'est ce que je cherchais aussi à faire en créant ce jeu. Je cherchais à me dire, est-ce qu'on peut toucher un public, lui ou non ? Et dans ce cas, quels vont être les échos de la réception ? Un peu comme une expérimentation. Et le résultat est intéressant.
Là, In My Heart, je n'ai pu le faire qu'une seule fois parce que, émotionnellement, pour moi, c'était trop difficile. Il n'y a pas de bonne fin. Il n'y a pas de... C'est impossible.
Alors justement, il y a deux questions. Est-ce que je le refais plusieurs fois ou pas ? Ça, je pense que ça dépend vraiment du joueur. Mmh. Le jeu est fait pour pouvoir être refait plusieurs fois. Et pour, à la limite, quand on le refait une deuxième fois, on a un autre point de vue, peut-être plus distancié et analytique, qui permet de se dire, j'ai vécu déjà le truc une première fois, et je vais essayer de comprendre ses choix dans un deuxième run, comme on dit, qui me permet peut-être d'avoir un regard plus distancié. Après, je comprends aussi le point de vue qui consiste à dire j'ai vécu ça une première fois, c'était hyper éprouvant, je n'ai pas forcément envie de le revivre, mais ça m'a apporté quelque chose de le faire au moins une première fois. Voilà. Après, il n'y a pas forcément de bonne fin. Alors ça, c'était une grande question. Alors, je ne veux pas forcément spoiler, parce que justement, le problème, c'est que quand je dis aux joueurs de jouer au jeu, je leur dis jouez-le justement une première fois en faisant les choix qui seraient les vôtres. Pas forcément en essayant de faire les choix qui seraient ceux que moi, Sébastien Janvaux, je vous imaginais que j'ai pu faire, ou bien des choix qui seraient des choix stratégiques en disant je vais essayer de maximiser le taux de bonne réponse ou des choses comme ça. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais disons que effectivement, la question des fins, ça pose vraiment la question de comment je conçois mon jeu pour donner envie aux joueurs de jouer, d'y rejouer, etc. Et tout ce que je peux lui dire, c'est que va à la fin du jeu. De toute façon, il ne dure qu'une heure et c'est fait exprès. J'ai fait exprès un jeu court parce que de toute façon, il y a plusieurs mécanismes de rejouabilité. Et quoi qu'il arrive, il peut être intéressant d'explorer ou d'essayer d'explorer différentes fins. Il y en a qui sont très difficiles à trouver. J'ai les chiffres. Justement, l'avantage d'être sur Steam, c'est qu'on a les pourcentages de complétion de certains achievements.
Alors, du coup ?
Et sur certaines fins sont trouvées à hauteur de 14%.
Ah oui.
Mais j'ai quasiment 75-76% des joueurs qui ont fini le jeu. Donc, c'est bien. Parce que
c'est un super ratio. Hein. Souvent, les gens téléchargent un jeu et n'y jouent jamais.
C'est ça. Donc, en tout cas, je ne sais pas très bien comment Steam fonctionne, mais c'est au moins, je suis sûr que 76% des joueurs qui y ont joué ou qui l'ont lancé l'ont fini. Ce qui est un ratio au-delà de la plupart des cas, parce que les joueurs, généralement, ne finissent pas les jeux. Quoi. Même si c'est des jeux courts, vous pouvez avoir des jeux courts qui ne sont pas finis. Mais là, ce qu'on m'a dit, c'est le retour que j'ai eu, et c'est, je pense, la façon dont j'ai pensé le scénario du jeu. Une fois que vous le lancez, c'est difficile de se dire « je vais arrêter ».
Ah non, c'est très compliqué.
Ouais, et de toute façon, je mets un avertissement au début du jeu, et je l'ai fait exprès, disant « prévoyez une heure et demie de jeu pour le faire d'une seule traite ». Parce que c'est comme ça qu'il faut essayer de le vivre, vous serez plus en mise en situation. Malgré ça, les gens pourraient faire une pause ou s'arrêter. Et j'ai l'impression que la plupart des gens le finissent d'une seule traite. Quoi.
Tu as mis combien de temps à créer ce jeu-là ?
Alors le jeu, je l'ai créé en un an. J'ai créé en un an, du moment où j'ai eu l'idée de faire ce genre de jeu, d'apprendre aussi un logiciel permettant de le développer, parce que je ne suis pas codeur, je ne suis pas graphiste. Je suis un peu musicien, mais l'essentiel de la musique, c'est un ami qui l'a fait, un ami de longue date, hein, qui me suit depuis le lycée, qui a connu aussi toute ma vie. Voilà. Et donc, bon, j'ai juste fait un morceau à la guitare, parce que je fais de la guitare, et c'est le morceau un peu hommage, hein, à la mère de mon fils qui clôt le jeu qui, et que je tenais à faire personnellement. Mais sinon, oui, effectivement, bon, bah, j'ai tout fait dans le jeu, les graphismes, le code, le scénario, tout, quoi. Mis à part, comme je disais, la musique, qui rajoute quand même énormément à l'expérience aussi.
Oui, les sons aussi sont très émotionnellement touchants. Enfin, y a, voilà, une ambiance toute particulière.
C'est ça, c'est ça. Et donc, les graphismes sont un peu particuliers aussi, puisque c'est des photos réelles, hein, que j'ai prises durant ma vie de couple, pour la plupart, que j'ai retravaillées. Après, parce qu'il y a tout un travail de dessin à la main et de digital painting derrière ça. Mais on est face à un jeu qui est justement, même dans sa forme, un intermédiaire entre le réel et la fiction. La fiction par les choix qu'on peut faire qui n'ont pas forcément existé, mais aussi le réel, parce qu'à la base, c'est une autobiographie et ça se traduit jusque dans les graphismes.
Est-ce que tu as eu des échos de joueurs qui ont eu des réticences à jouer à la In My Heart, par exemple ? Des gens qui se sont dit, c'est trop réel, c'est trop grave ? Non.
Oui, oui, oui. Ben forcément, bon, alors soit j'ai des gens qui me disent non, mais ça, c'est pas du jeu. Puis de toute façon, pourquoi tu parles de ça dans un jeu ? Ça me choque de dire que c'est un jeu et de parler de ce genre de truc. Y a des gens qui disent effectivement, je suis trop sensible et j'ai pas envie de jouer à ça. Et je le comprends, mais complètement. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que sur la page Steam de vente du jeu, il est indiqué que ce jeu aborde des thématiques sensibles, notamment liées au suicide. Parce que j'ai bien conscience que ce genre de jeu, il ne faut pas forcément être dans une période de sa vie où on est trop sensible pour y jouer. Et forcément, ça me coupe d'une part du public. Mais en même temps, c'est aussi parce que j'ai cette position de chercheur qui n'a pas forcément un impératif de vie dans la réussite du jeu que j'ai pu faire ça.
Tu n'as pas vocation à vendre des millions, quoi.
Voilà, c'est ça. Si ma vie dépendait de la réussite économique du jeu, je pense que je n'aurais pas pu le faire, en fait. Parce que c'est trop risqué, quoi. Je veux dire, je sais que... et de toute façon, c'est un marché d'hyper niche. Voilà. Et même, ça pose la question comment je le mets en visibilité, comment je touche des joueurs dans un marché qui est en fait très conservateur, très, très constitué. Hein. L'industrie du jeu vidéo, c'est très conformiste. Hein. Malgré les discours d'innovation, etc. C'est souvent des discours d'innovation qui portent sur la technologie, mais en termes culturels et de fond, c'est une industrie qui est encore très conservatrice. Donc, ça pose des nombreuses questions. Et néanmoins, je pense qu'il faut encourager parfois des expérimentations qui n'ont pas forcément vocation à se répandre ou à se diffuser comme les gros succès des majors, mais qui peuvent quand même apporter des formes de diversité. Et heureusement, et c'est de toute façon ce qu'on retrouve dans la plupart des industries culturelles, je crois.
Aujourd'hui, on parle même de triple I, finalement, pour les indépendants qui se fondent un peu dans le moule du triple A, quoi.
Oui, ouais, ouais, mais du coup, voilà, c'est des indépendants qui, justement, ne sont pas alternatif. Moi, c'est ce que je disais dans mon cours. Hein, on peut faire la distinction entre des jeux alternatifs et des jeux indépendants. C'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Donc, tu es sur Steam, surtout pour une question de visibilité, parce que sans Steam...
Disons que je suis sur Steam parce que mon premier jeu, je l'avais fait gratuit. Je l'avais mis sur un site internet lambda, etc. Et là, dans le cadre, justement, d'une sorte de curiosité aussi scientifique, j'avais envie de voir comment ça se passait, que d'essayer de commercialiser un jeu indépendant et toutes les problématiques que ça apportait en termes de plateforme, de distribution. Parce que ça, c'est des choses qui sont extrêmement opaques. Et tant qu'on ne les fait pas, on ne les connaît pas. Voilà. Donc en termes de compréhension même des processus, parce que je m'intéresse aussi à la façon dont les logiques socio-économiques formatent les contenus, pour aborder ça, il fallait que je me coltine un peu les voies usuelles de distribution d'un jeu indépendant. Et puis aussi, comme tu le dis, en termes de visibilité, je crois que si je ne l'avais pas vendu, mais il y a des journalistes qui n'auraient même pas lu mon mail, quoi. C'est à ce point-là. C'est-à-dire, il faut un minimum de crédit. Et malheureusement, je crois que le crédit, il y a différentes façons de l'avoir, mais dans le jeu vidéo, encore aujourd'hui, et il y a des manifestations très récentes de cérémonies qui remettent des prix à des jeux vidéo qui montrent très bien que le crédit s'acquiert par la visibilité économique et marketing. Je ne vais pas citer de nom.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui voudrait se lancer dans une conception de jeu comme tu le fais toi ? Du jeu expérimental, du jeu...
Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est pas forcément faire ce genre de jeu pour se sentir mieux, déjà. Créer un jeu comme ça, moi, ça m'a énormément touché, en fait. Et même, c'est pas un acte de catharsis, quoi. Ça crée vraiment, c'est très difficile. Mais en même temps, je l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait aussi en pensant aux autres et à l'enjeu qu'il pouvait y avoir de parler de ce genre de sujet. Et pour quelqu'un qui souhaiterait justement se lancer dans du jeu expérimental, ben, ce que je conseille, c'est d'être curieux, mais curieux de tout. C'est-à-dire pas se cantonner aux jeux vidéo, essayer d'aller voir déjà différents types de jeux vidéo, essayer d'explorer l'histoire des jeux vidéo, mais aussi s'intéresser au cinéma, à la bande dessinée, au théâtre, à la littérature. Voilà, moi, c'est la musique. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Théorie des jeux vidéo, hein, où j'ai fait un devlog autour de Lie in My Heart. Et je reviens, par exemple, dans un épisode de ce devlog sur les liens qu'on peut faire dans la création entre les différentes formes d'art et comment les différentes formes d'art, par le jeu qu'elles comportent, hein, il y a du jeu dans la musique, il y a du jeu au cinéma, comment on peut s'inspirer de ce jeu-là pour créer en game design. Et ça, c'est une perspective qui, à mon sens, a été quasiment jamais explorée, et qui peut être un bon conseil pour quelqu'un qui souhaiterait avoir des nouvelles idées en création de jeux vidéo.
Merci beaucoup, Sébastien.
Mais de rien, merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiscopie. Je vous mets en lien de quoi tester les jeux de Sébastien. Nous, on se retrouve très vite pour le 6e épisode, toujours à Metz, qui sera consacré à Thomas Altenburger et à son parcours du jeu mobile Dead End à sa prochaine sortie Scorchbringer. Indiscopie.